Chapitre 22. Le code de la Verte Croix. Le temps semblait s'être arrêté dans le palace. Aucune perturbation ne venait désormais troubler le rituel immuable de chaque matin. Les sept prémats privilégiés apportaient le journal, du pain frais, des fruits de saison et du café fumant. Le reste de la journée, ils anticipaient le moindre désir de chaque invité. L'eau de la piscine était toujours à la même température, même si l'hiver approchait. Les couloirs du palace étaient toujours autant éclairés, même si les jours raccourcissaient. Une routine bienfaisante qui leur faisait perdre petit à petit toute notion de la réalité. Souvent, Agnelle montait sur le toit du palace. C'était le seul endroit où il ne se sentait pas tout à fait comme un oiseau en cage. Sur la terrasse panoramique, dissimulée par les feuilles de lierre et les plantes fleuries arrosées quotidiennement par Lundi, personne ne pouvait le repérer. Le plus souvent, Mano l'accompagnait. Agnelle, de leur point d'observation, regardait le ciel, alors que le gitan fixait l'horizon au-delà des méandres du fleuve. « J'en ai assez d'être enfermé », avoua un matin le gitan. « Je m'ennuie, Agnelle. Ma vie, c'est être libre, c'est voyager. » Un vent d'altitude ébouriffait leurs cheveux, piquait leurs yeux. « Diamante me manque, » continua Mano, « et tous les autres gitans de mon clan aussi. Jean, Shanna, Kenji, Sacho, et mon Milan sacré. » Agnelle suivait des yeux le vol d'un rouge-gorge sans lâcher la main de son ami comme pour le retenir de s'envoler.
« Si tu me quittes, » murmura Agnelle. « Moi aussi, je vais te manquer. »«
Non, pas si tu pars avec moi. »
« On ne peut pas. » Tu sais bien qu'on ne peut pas. On est dehors la loi.
Alix et Zizo se levaient généralement les premiers. Ils s'installaient à la table du petit déjeuner, attendant que Sabi, Akan, Agnelle et Mano les rejoignent. Mardi et mercredi se tenaient toujours debout derrière eux, prêts à remplir leur verre de jus d'orange dès qu'ils en buvaient une gorgée, ou veillant à la cuisson précise, à la seconde près, des œufs brouillés ou des tranches de pain grillé.
« Combien de temps va-t-on encore attendre ainsi ?»
se lamentait Alix en avalant une tartine.
« On ne va pas rester enfermé ici jusqu'à notre majorité. »
Dès qu'elle crachait des miettes, Jeudi s'empressait de les ramasser avec une petite balayette de table.
« Si, au moins, » continuait-elle, « Jacques se décidait à nous parler du passé. »
Il en savait forcément plus qu'il ne voulait en révéler, elle en était persuadée. Peut-être même détenait-il la réponse aux questions qu'il se posait à longueur de journée. L'empire de la mort, les quatre traits, au plus profond de la terre et au plus haut de la lumière. Depuis plusieurs semaines, Alix et Zizo, blottis l'un contre l'autre dans le canapé de cuir du salon Hemingway, imaginaient toutes les façons possibles d'interroger Jacques sans qu'il se referme comme un escargot dont on touche la coquille. Au milieu de la nuit, quand il était ivre-mort, ou au contraire... À jeun, le matin, au sortir de la piscine. Grâce à Sabi, Jacques avait pris l'habitude de nager. Il se laissait tomber ensuite sur un transat à côté de son trophée d'astronaute, sa fameuse pierre de soleil, posée sur un petit socle de verre entre le bar et les vestiaires.
« Tu penses quoi de lui ?» demandait parfois Zizo. « Jacques, je crois que je l'aime bien, au fond. » Même s'il est alcoolique, égoïste, lâche, grossier avec ses privilégiés, odieux avec ce monstre de crobleu, je crois que je l'aime bien quand même.
Moi aussi, avouait Zizo. Quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est nous les adultes et lui le gosse. C'est sûrement pour ça qu'on a envie de tout lui pardonner.
T'as raison. Mais c'est quand même dommage qu'un tel feignant soit le dernier adulte vivant. Le nouveau monde aurait quand même été mieux parti si le seul survivant avait été Batman ou Superman.
Avait été quoi ? Quoi, même après 4 ans de vie au château, Zizo jouait encore parfois les crapauds. Chaque matin, Sam leur apportait la feuille de chou. Les nouvelles du monde nouveau se succédaient. La mission Grand Sud poursuivait sa route, et le drapeau du Grand Cerf flottait sur de nouveaux territoires loin de Paris. Une battue géante avait été organisée en forêt, soi-disant pour traquer une horde de sangliers, mais le ton ironique de Constel laissait imaginer qu'il existait une autre raison, moins officielle. Évidemment, Alix et Zizo avaient compris que le véritable animal traqué était... Luponera.
Ils se sentaient tellement inutiles, si loin de la vraie vie. Leur seule consolation était que jamais la feuille de chou n'avait parlé de Valère. Cela signifiait certes qu'il était toujours en prison, mais qu'il ne lui était rien arrivé de grave. Sinon, Constel en aurait forcément parlé. Du moins, il espérait.
Plus les jours passaient, plus les six occupants du palace attendaient avec impatience l'arrivée de la feuille de chou. L'automne traînait sa grisaille. Les premiers givres le blanchissaient à peine. La veillée du sanctuaire approchait doucement, sans attendre l'hiver. Et seul le journal ouvrait une fenêtre sur l'extérieur. Chaque jour, le cérémonial était le même. Tôt le matin, des primats, désormais tous marqués d'une croix verte, déposaient devant la porte du palace la nourriture nécessaire au repas de la journée, ainsi que des objets divers dont Jacques avait dressé la liste, et le journal que Sam s'empressait de leur donner avant de s'éclipser. Un matin, pourtant, alors que Sam venait d'apporter le journal et s'apprêtait à disparaître, Alix le retint par la manche. Elle avait eu le temps de lire le titre barrant la une de la feuille de chou. Elle ordonna à Dim, à lundi, à vendredi et tous les autres privilégiés de quitter leur cuisine, d'abandonner leurs torchons et leurs balais, et de venir les écouter. Même Crobleu s'approcha et tendit l'oreille. Alix se leva, et d'un ton qui avait retrouvé toute la solennité et la gravité de la reine qu'elle avait été, lut à voix haute et claire. Feuille de chou. Jour 343 de l'an 16. Numéro spécial. Cher lecteur, suite au conseil exceptionnel du Nouveau Monde qui s'est tenu ce jour, les ministères des punitions, de l'instruction et de la promotion, du jour et de la nuit, nous prient de publier intégralement dans ce numéro ce décret que désormais nul ne pourra ignorer. Code de la Verte Croix. Droits et devoirs relatifs aux prémats et prisonniers de guerre marqués de la Verte Croix. Entre parenthèses, résumé ci-dessous sous le nom de prémats. 1. En échange de leur travail, les prémats seront nourris, logés, vêtus et leur bonne santé sera assurée. 2. Les prémats peuvent posséder de l'argent, mais jamais plus de 10 lunes. Toute lune supplémentaire trouvée sur eux sera confisquée. 3. Les prémats ne peuvent pas porter d'armes en dehors des missions de chasse et de cuisine qui leur sont confiées. 4. Les prémats sont autorisés à consommer de la menthe magique en boisson, infusion ou feuilles à mâcher dans la limite des quantités qui leur seront vendues. Elle devra être consommée dans la journée. Il leur est interdit de la conserver, de la vendre ou de la jeter. 5. Les prémats doivent reconnaître Marilune comme unique maman. Tout blasphème envers elle sera puni de 5 coups de fouet. 6. Les prémats n'ont pas le droit de se reproduire. En conséquence, hommes et femmes devront dormir séparément, se laver dans des lieux distincts et limiter au maximum les occasions de fréquenter des individus du sexe opposé. Les tâches des prémats seront organisées de façon à réduire au minimum les risques de mixité. 7. Une tâche est affectée à chaque prémat sous la responsabilité d'un membre du château ou par délégation sous la responsabilité d'un promu. 8. Tout refus d'effectuer cette tâche sera puni de 10 coups de fouet. 9. Toute tentative de fuite sera punie de 100 coups de fouet. 10. Tout geste de violence envers un responsable ou par délégation d'un promu sera puni de la peine de mort. Dans la salle du petit déjeuner, pendant de longues minutes, personne ne parla. Jacques, arrivé en cours de lecture, finit par essayer de détendre l'atmosphère en sifflotant tout en se servant un mug de café serré. Sabi fut la première à exploser.
« Vous avez vendu vos enfants au diable !»
Jacques se contenta de souffler sur son café.
« Ce ne sont pas mes enfants. »«
Si !»
intervint Zizou.
« Vous en aviez la responsabilité !»
Jacques but une gorgée de son breuvage noir et grimaça. « Ben voyons. La responsabilité de 300 prémats. Et des veaux, des chiots, des chevreaux et des oisillons pendant que vous y êtes. Et de la terre tout entière. »
« Ils vous faisaient confiance, » continua Agnel. « Vous avez veillé sur eux depuis qu'ils sont nés. Vous avez cueilli des bouquets d'immortels pour ceux qui mouraient. Ils vous considéraient comme leur père. »
« Vous savez lire, non ?» s'énerva l'adulte. Ils seront logés, nourris, soignés. Ils vivront plus vieux que s'ils étaient restés à se balader en liberté. »
Il chercha un soutien dans le regard des 6 ados assis devant lui, mais n'en trouva aucun.
« Que s'est-il passé ?» demanda Akan. « Vous étiez un homme bien avant le passage du nuage. Vous étiez même une petite célébrité, un astronaute réputé. Que s'est-il passé ?»
Jacques se raidit sous l'avalanche de questions.
« Je vais vous foutre dehors si vous continuez !»
Akan se leva. Il dépassait d'une tête l'adulte et après des semaines dans la salle de sport pesait 10 kilos de muscles en plus. Jacques se contenta de le défier en exagérant un rictus de défi.
« Méfiez-vous, je n'ai qu'un mot à dire et la garde civile débarquera ici !»
« Et après ?» répliqua Alix sans tenir compte de sa menace. « Vous continuerez de boire vos bouteilles millésimées ? Seul, au milieu de vos privilégiés et de votre souffre-douleur préférée ?» Elle marqua un bref silence.
« Vous devez nous aider. Vous voyez bien ce qui est en train de grandir dehors, le même monde que celui d'avant, mais en pire !»
Jacques ne put retenir un geste brusque et renversa la moitié de son café.
« Tais-toi ! Tu ne sais rien sur le monde d'avant ! Alors racontez-moi !»
Ils avaient tous les deux levé le ton. Tous crurent un instant que Jacques allait craquer. Des larmes perlaient au coin de ses yeux.
« Jacques, tu dois nous aider !»
insista Sabi en le tutoyant pour la première fois.
« Vous aider ? Vous aider à quoi ?»« À construire ce monde nouveau !»
fit Zizo.
Ah, désolé les jeunes, ça c'est votre job, pas le mien.
Alix ne put contenir sa colère.
Enfin merde, réagissez! Vous n'étiez pas comme ça avant, j'en suis certaine! Aussi égoïste, aussi indifférent! Vous deviez avoir des amis, des parents, peut-être même des enfants! Vous deviez avoir un cœur avant que ce nuage ne tombe du ciel! Avant l'accident!
La voix de Jacques, en contraste avec la colère d'Alix, se fit douce, presque inaudible. Juste un murmure avant qu'il ne pose sa tasse sur la table et ne sorte de la salle.
« Ce nuage n'est pas tombé du ciel, ma belle. Et ce n'était pas un accident. »